السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، on s'est arrêté la dernière fois au trajet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait entre la mosquée prophétique et la montagne de Uhud. Donc on est juste aux prémices, juste à quelques heures avant le début de cette grande bataille, la deuxième grande bataille de l'islam dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bataille de Uhud. Et on a expliqué que les idolâtres ont commencé à camper sur tout le front ouest de la ville de Médine. Sur tout le front ouest. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son armée, qu'il a organisée en trois bataillons. Le bataillon des Muhajiroun, le bataillon des Aous et le bataillon des Khazraj. Et il s'est dirigé directement vers l'est. Et ensuite, au moment de sortir de la ville de Médine, au lieu de continuer vers l'ouest, Afwan, et au lieu de continuer vers le camp des idolâtres, il a remonté au nord. Il a longé toute la ligne de front où se sont installés les idolâtres. Donc il est passé, il est arrivé à l'endroit qu'on appelle Thaniyatul Wada', et ensuite il est remonté vers le nord en contournant la ville de Médine, en passant par Sheikhan, ensuite Al-Shawt. Sheikhan, c'est là qu'il a passé l'armée en revue et qu'il a renvoyé un certain nombre de ses compagnons. On en avait cité onze selon les versions historiques. On avait dit que les historiens citent, parmi ceux qui ont été renvoyés parce que considérés trop jeunes, ils avaient en dessous de 15 ans, Abdullah ibn Umar radiyallahu an, Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, Usama ibn Zayd radiyallahu an, Usayd ibn Hudayr radiyallahu an, Zayd ibn Thabit radiyallahu an, Zayd ibn Arqam radiyallahu an, Zayd ibn Haritha radiyallahu an. Ensuite, Urana ibn Aws radiyallahu anhu, Amr ibn Hazm radiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, et Sa'd ibn Habba radiyallahu anhu. Ces 11 compagnons sont ceux qui sont cités par les historiens pour dire qu'ils ont été renvoyés parce que considérés trop jeunes. Sauf qu'on s'était attardé sur le cas de Abdullah ibn Umar, puisque là on avait dit que c'était la seule version authentique qu'on avait qui confirmait ces paroles d'historien, c'est celle de Al-Bukhari où Abdullah ibn Umar explique qu'il a été renvoyé parce qu'il n'avait que 14 ans. Et on s'était attardé sur le cas du compagnon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, où certains historiens considéraient qu'il avait été renvoyé et d'autres considéraient qu'il avait quand même assisté. Pourquoi ? Parce qu'on a des versions dans les hadiths qui tendent à montrer ou à démontrer qu'il aurait assisté à la bataille de Uhud. Mais on a vu la semaine dernière que c'était un petit peu plus compliqué que ça, donc on reste dans le doute au sujet de Bara ibn Azib, a-t-il vraiment assisté ou non. Ensuite, le professeur sallam est remonté, donc il a passé une partie de la nuit à Cheikhan, ensuite il a pris la route avant Al-Fajr, et il s'est arrêté au moment de Al-Fajr à Shaut. Et c'est à Shaut, à cet endroit, que les hypocrites, ils se sont retirés, ils ont réussi à convaincre 300 hommes de se retirer. Donc l'armée du professeur sallam, qui était de 1000 combattants, se retrouve amputée d'un tiers et il lui en reste que 700. On a aussi expliqué qu'à un moment, le professeur sallam va essayer d'être optimiste avec un petit événement de rien du tout, mais le professeur sallam l'utilise pour essayer de propager l'optimisme, l'espoir parmi ses troupes. C'est lorsque une monture, avec sa queue, elle va frapper, elle secoue sa queue et sa queue va s'attacher à une épée et donc elle va tirer l'épée de son fourreau. Et le professeur Hassan va s'adresser au cavalier qu'il y a sur cette monture. On a expliqué hein, que la semaine dernière que cette version, c'est une version qui n'a pas été authentifiée. Il y en a pas, certains pourraient se dire, mais on avait dit qu'il n'y avait pas de cavalier. Donc d'abord, ça peut être un chameau. Cavalerie sous-entend chevaux. Ça peut être un chameau. Et ensuite, cette version n'a pas été authentifiée. Non. Donc, le professeur Hassan lui aurait dit, remets l'épée dans son fourreau. Parce que je vois qu'aujourd'hui, les épées, de toute façon, elles vont être retirées des fourreaux. Elles vont être brandies, les épées, aujourd'hui. Mais donc, il sert à rien de se précipiter. Remets-la pour l'instant dans son fourreau. Non. On a vu également que le professeur, quand il arriva à Shaut et que c'était le jour se levait, le professeur voulait arriver à Uhud sans qu'il ne soit vu par les idolâtres. Et là, il était à vue. Il n'y a plus de palmiers, il n'y a plus rien qui le sépare du camp des idolâtres. Et il a besoin d'arriver à Uhud pour choisir l'endroit. Il veut lui choisir l'endroit où il va combattre sans que les idolâtres ne s'en doutent et donc qu'il ne puisse pas envoyer des troupes sur l'endroit avant lui. Parce qu'évidemment, il sait que les idolâtres le surveillent et que maintenant, avec le jour, etc., et qu'il n'y a plus rien qui le cache entre lui et eux, ils peuvent mieux voir. Donc le professeur Hassan va dire, qui d'entre vous, et il faut savoir que là, au nord de Médine, on arrive sur la plaine de la tribu des Bani Haritha. Et là, il y a un compagnon, Abu Hafma, qui appartient justement à cette tribu, donc il habite là, il connaît l'endroit comme sa poche. Il va dire, le professeur Hassan va chercher un guide, va dire, qui d'entre vous est capable de nous guider à travers les plaines de Bani Haritha sans être vu par les idolâtres? Et Abu Hafma va dire, Ana ya Rasulallah, moi au messager d'Allah. Et c'est Abu Hafma qui va réussir à les conduire, et il va passer par où? Par le verger de Mirba' ibn Qaydi, cet homme qui est considéré comme un hypocrite, qui était aveugle, et quand il va entendre le passage des troupes sur ses jardins, il va dire, In kunta Rasulallah, fala uhillu laka al-murura bi ha'iti. Si tu es le messager d'Allah, je ne t'autorise pas à passer par mes champs, par mes vergers. Et il va même prendre une poignée de terre et il va dire, si j'étais sûr de ne toucher personne d'autre que toi, je l'aurais lancé. Mais comme il est aveugle, il sait pas, il voit pas. Et il y a certains compagnons qui ont voulu lui régler son compte. Mais le professeur sallam a dit, da'ou hadha al-a'ma al-qalb al-a'ma al-basar. Hadha al-a'ma al-basar a'ma al-qalb. Laissez cette personne qui est aveugle des yeux, mais aussi et surtout aveugle du cœur. Le problème, c'est pas de pas voir avec les yeux, c'est qu'il, même avec son cœur, il ne voit plus. Il est égaré. Donc laissez-le. À quoi bon? Sauf qu'on a dit qu'un compagnon, selon cette version, encore une fois non authentifiée, aurait, avant que le professeur Hassan n'ait pu terminer son ordre, jeté un bâton sur lui, et donc il l'aurait blessé à la tête. Non. Et dans le, j'ai oublié juste de préciser que dans le passage en revue de l'armée, quand le professeur Sam renvoie les 11 compagnons, il garde quand même deux compagnons qui n'ont que 14 ans pourtant. Samurat ibn Jundub et Rafi' ibn Khadij. Il garde en vérité, il veut garder en vérité uniquement Rafi' ibn Khadij parce que c'est un très bon archer, il s'est tiré à l'arc. Il s'est très bien visé. Sauf que Samurat ibn Jundub va s'en plaindre à son beau-père, le mari de sa mère, et va lui dire « J'ai été renvoyé alors que Rafi' ibn Khadij a le même âge que moi et moi je le bats à la lutte. » Comme diraient les jeunes aujourd'hui, je le mets à l'amende. Et donc le beau-père va venir voir le prince ensemble et va lui dire « Le fils de mon épouse se plaint, il dit, voilà ce qu'il dit. » Le professeur Hassan va dire bah, « Voyons ça, allez montrez-nous. » Et en effet, Samurat ibn Jundub va mettre à terre Rafi' ibn Khadij. Et là, le professeur Hassan va dire « T'as gagné ta participation, khalas. Mais tu vas être avec Samurat ibn Jundub pour lui donner les flèches, pour que ce soit plus facile pour lui de tirer, qu'il tire encore plus de flèches que s'il avait lui-même à devoir à chaque fois prendre une flèche et la tirer. » Alors, dès qu'il tire une, Samurat ibn Jundub, il est déjà là avec la flèche. Hak. Et hop, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Uhud. Donc, je suis désolé, on ne projette pas sur un mur. Donc, je vais demander à ce que vous soyez extrêmement concentrés pour que vous schématisiez l'endroit où va se passer la bataille. C'est extrêmement important pour comprendre la suite. Donc, je vais essayer de vous le schématiser au mieux, oralement. D'abord, l'endroit, la montagne de Uhud se situe où par rapport à Médine? Elle se situe au nord, à l'extérieur de Médine. Qu'on a bien expliqué. Imaginez-vous que vous avez la ville de Médine, en face de vous, sur une carte. Et qu'au nord, il y a la montagne de Uhud, à l'extérieur. Aujourd'hui, la ville de Médine, elle s'est tellement agrandie que Uhud est à la périphérie de la ville de Médine. Alors qu'avant, il fallait marcher à l'extérieur de la ville pour arriver jusqu'à Uhud. Donc Uhud est au nord, à l'extérieur. Sur tout le front ouest, il y a le camp des idolâtres, qui eux sont venus assiéger, attaquer directement la ville de Médine. Mais avant d'attaquer la ville de Médine et de s'en approcher, ils attendent que toute l'armée arrive, donc ils ont campé sur tout le front ouest. Et ils voient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort vers eux. Donc au début, il pense qu'il sort vers eux et qu'il va les attaquer ou qu'il veut défendre la ville sur le front ouest. Sauf que le professeur sallam, pendant toute cette nuit, comme on l'a expliqué, il va remonter vers le nord, jusque vers Uhud. Donc il faut vous imaginer que le point de Uhud vers le nord, le professeur sallam va longer la ville de Médine jusqu'à la montagne de Uhud et il va se retourner juste avant la montagne de Uhud. C'est-à-dire, il va se retourner, c'est-à-dire qu'au lieu de s'installer là, ce qui aurait été le plus logique, ce que nous, on aurait fait. C'est quoi la stratégie? Attention, ils veulent attaquer la ville, c'est compliqué. La montagne de Uhud, pourquoi ils veulent la montagne de Uhud? On pourrait se dire, le professeur Hassan, il veut la montagne de Uhud pour acculer les idolâtres, les mettre, en fait, dans une embuscade, les attirer ici. Lui, le professeur sallam, avec son armée, il est comme une barrière pour la ville de Médine. Il protège la ville de Médine. S'ils veulent aller attaquer Médine, il faut passer par eux. C'est ce qu'on aurait choisi comme place. On se serait mis juste... on aurait bloqué les idolâtres entre la montagne et nous, l'armée. Comme ça, derrière nous, il y a la ville, on la protège. Ils ne peuvent pas l'attaquer, on est là. Et eux, si on les attaque, ils n'ont pas où fuir. Il y a la montagne. Aïwa. Sauf que le professeur Hassan ne fait pas du tout ça. Et on va expliquer pourquoi. Et il faut réfléchir plus loin. Le professeur Hassan, au contraire, il prend la place que nous, on aurait donnée aux idolâtres. Il va au pied de la montagne de Uhud et il demande à l'armée de se retourner. C'est-à-dire d'avoir la montagne dans leur dos, la montagne de Uhud dans leur dos, et d'avoir la ville de Médine face à eux. Et ensuite, il laisse les idolâtres arriver. Donc, pour les idolâtres, c'est du pain béni. Ils se mettent à l'endroit où nous, on se dit que les musulmans auraient dû se mettre. C'est-à-dire que les idolâtres se mettent à un endroit, ils se positionnent, ils ont quoi? Ils ont les musulmans devant eux et la ville de Médine derrière eux. Ils ont la ville de Médine à leur merci, ils veulent d'abord s'occuper de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent on va s'en occuper, et ensuite on aura la ville de Médine. Juste derrière nous, sans personne pour la défendre. En apparence, le positionnement choisi des différentes armées est en faveur de qui? En faveur des idolâtres. En apparence. Mais, subhanallah, quand on y réfléchit, quand on réfléchit profondément à la situation, il y a eu différents scénarios. Sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû penser avec les compagnons qu'il a consultés aux différents scénarios qui pourraient arriver. Et donc, en fonction de ces différents scénarios, quelle est la meilleure position ou, même si ça ne se dit pas, quelle est la moins pire des situations? Quelle est la moins pire des positions? Et en réalité, si on réfléchit bien, avec cette position que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris, il a la montagne de Uhud dans son dos, la ville de Médine là-bas face à lui, et entre lui et la ville de Médine, il a attiré l'armée des idolâtres pour se mettre là. Il y en a, si on se met à la place des idolâtres, évidemment, c'est la place en or, la place rêvée. Mais normalement, ils auraient dû réfléchir à deux fois. C'est trop beau pour être vrai, comme dirait l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, en faisant ça, il protège la ville de Médine. Il la protège mieux que s'il avait été à la place des idolâtres. Vous allez me dire, bah comment? S'il était à la place des idolâtres, il aurait bloqué les idolâtres et il serait là. Oui, mais dans le cas d'une défaite, puisque nous on le sait, c'est facile de parler des siècles après, on sait que ça va être une défaite. Le prophète sallam, sans aucun doute, a dû se dire, et si on perd, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne peut pas contrôler, généralement quand il y a une défaite, on ne contrôle plus rien. Les gens fuient, chacun pour soi, yani, celui qui peut fuir, il fuit. C'est rare quand il y a une défaite d'arriver à faire une retraite qui est organisée, une retraite stratégique. C'est rare, il y a une classe. À ce moment-là, c'est sauf qui peut. Donc le professeur Sam réfléchit au pire des scénarios, c'est celui-là. C'est qu'ils perdent et que c'est la débandade. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi le réflexe de l'armée musulmane? C'est de fuir. De fuir vers où? À chez eux. Où ça? À Médine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les idolâtres vont les suivre. Ça, halallah. Ils vont les pourchasser jusque dans la ville. Et donc là, en fait, ils auront donné la ville de Médine aux idolâtres. Donc, pour éviter ce scénario, Wallahu a'lam, ce sont ma déduction, Liana Hachi, on n'a pas de détails dans les livres d'histoire qui nous le disent, mais yani, quand on se pose un moment, on prend les différentes cartes qui ont été émises et les positions qui ont été données par les historiens, et on essaye de réfléchir. Pourquoi? Il y a une raison. Le professeur Hassim a toujours consulté ses compagnons. Il n'a pas pris le positionnement au hasard. Et quand on y réfléchit, on trouve ce scénario-là. Et s'ils gagnent, ils ont gagné. Qu'ils soient là ou là-bas, ça revient au même, ils ont gagné. Si le problème, c'est s'ils perdent. Et qu'ils perdent tellement que c'est la débandade. Ils vont fuir vers Médine. Le seul refuge qui leur reste, c'est Médine. Et en fait, le prophète sallam bloque son armée du côté de la montagne. Pourquoi? Pour que s'il y a un échec, une défaite, son armée n'aura aucun autre choix que de se réfugier où? Ben, ce qu'ils vont faire, parce qu'ils vont perdre la bataille, ils vont se réfugier où les survivants? Dans la montagne, ils vont grimper la montagne. Et quand tu grimpes sur une montagne comme celle de Uhud, celui qui te pourchasse, il ne peut pas te pourchasser. Il y en a, toi, tu es en hauteur. Même si tu es fatigué, essoufflé, tu es blessé, avec tes flèches, avec tes lances, d'en haut, tu le vises, c'est trop dangereux. Donc les idolâtres ne pourront pas grimper pour les pourchasser. Vous allez me dire, ouais, mais la ville de Médine? La ville de Médine, mettez-vous à la place des idolâtres. On a gagné la bataille. C'est la débandade pour les musulmans. Ils se sont réfugiés sur la montagne. Maintenant, occupons-nous de la ville. Sauf que le temps de s'occuper de la ville, donc d'aller, de retourner vers le sud, vers la ville, comment tu peux être tranquille? Tu sais que tu as laissé des centaines de personnes sur la montagne qui savent que tu vas aller vers la ville de Médine et donc qui peuvent se réorganiser. Et donc, tu as un danger derrière toi. Tu peux pas attaquer sereinement une ville en sachant que ceux qui sont censés la défendre, tu les laisses derrière toi et qui peuvent te poursuivre. Et donc, la défaite, l'échec, peut se retourner en victoire. Et c'est exactement ce qui se passera. Lorsque certains idolâtres diront à Abou Sofiane, maintenant occupons-nous de la ville, ils auront peur. On dit, ouais, mais on les a laissés là. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et donc, en prenant tout ça, on en déduit que c'était la meilleure des positions à avoir, en particulier en cas de défaite ou de débandade. Non. Donc ça, c'est le positionnement. Et la chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a le fameux Jabal Rumat, le fameux mont des archers. Ah, ce fameux mont des archers, dont on va beaucoup parler. Donc, on est sur la plaine de Uhud, il y a la montagne de Uhud. Comme je vous ai dit, les musulmans se sont mis sur le flanc, au pied de la montagne. Ils ont la montagne de Uhud qui est grande, dans leur dos, derrière eux. Et ils ont, face à eux, la ville de Médine. D'accord ? Et donc les idolâtres se mettent face à eux pour se préparer à la bataille. Et entre les musulmans et les idolâtres, vers l'est, donc si moi je suis à la place de l'armée des musulmans et que la montagne de Uhud, elle est derrière moi, la montagne, le petit mont, la colline des archers, elle est vers la gauche. La gauche des musulmans. Et à droite des idolâtres. Non. Ce mont, on va y revenir. Il est important que vous schématisez dans votre tête qu'il y a ce mont à cet endroit. Et donc le prophète sallam, il a choisi cet endroit, on a expliqué pourquoi. Maintenant, il réorganise l'armée. Il réorganise l'armée. Nous, on a dit que le prophète sallam avait organisé l'armée à la sortie de Médine de 3 bataillons. Le bataillon des Muhajiroun, à la tête de ce bataillon, il y avait Moussab ibn Umayr. Le bataillon des Aous et le bataillon des Khazraj. Arrivé à Uhud, le prophète sallam réorganise différemment. Et là, on voit aussi la stratégie. Comment le prophète sallam était un grand stratège? Il aurait pu laisser la même chose, la même organisation. Pourquoi il réorganise? Il a fait le trajet pendant toute cette nuit, il était sous les yeux, sous la vision des espions, des idolâtres qui étaient juste en face, là-bas. Donc ils ont vu les 3 grands groupes qui se déplaçaient. Et ils ont compris qu'il y avait 3 bataillons. Et donc le professeur Hassem réorganise et change quand il arrive à Uhud. Pour que les idolâtres fassent un plan d'attaque en fonction de 3 bataillons. Et en fait, le professeur Hassem fait les choses différemment. Quand il arrive à Uhud, et l'autre raison pour laquelle il réorganise, parce qu'il avait organisé 3 bataillons, c'était pour organiser un trajet. Maintenant, il n'est plus dans un trajet, il est dans un positionnement pour un combat. Et donc là, il réorganise en fonction de ça. Et en fonction de ce qu'il y a dans l'endroit. Il y a une montagne, il y a Jabal Rumat, le mont des archers. Pourquoi on l'appelle le mont des archers? Ben justement, parce qu'il va y avoir des archers dessus. Et en face de lui, le camp des idolâtres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réorganise l'armée et il divise en deux moitiés, deux groupes, deux grands bataillons. Un bataillon du côté droit de l'armée musulmane et un bataillon du côté gauche. Du côté droit, au pied de la montagne de Uhud et loin de Jabal al-Rumat, il met Amr ibn al-Mundhir. Il met le compagnon à la tête de ce bataillon-là, Amr ibn al-Mundhir, radiyallahu anhu. C'est un compagnon, radiyallahu anhu, que le professeur Hassan va renvoyer en expédition. Après, il va survivre à la bataille de Uhud et il va le renvoyer dans une expédition, à la tête d'une expédition après la bataille de Uhud, dans la plaine et contre les tribus des Bani Sulaym, et il tombera en martyr dans cette bataille. Non. Et à gauche, le prophète sallam commence déjà à s'inquiéter de cet accès. Le prophète sallam, il a la montagne, mettez-vous à essayer de vous familiariser avec ce champ de bataille. Le prophète sallam, il a l'armée, il a la montagne de Uhud derrière lui. Il y a l'armée des idolâtres devant lui. Et à sa gauche, il y a cette colline qui coupe une partie de la vision des idolâtres, parce que les idolâtres sont à des centaines de mètres, ils s'installent à des centaines de mètres. Donc il y a une partie de l'armée qu'on ne voit pas très bien à cause de cette colline. Il peut se passer des choses derrière cette colline qu'on ne voit pas. Et ça peut être un accès, parce qu'entre le mont des archers et la montagne de Uhud, il y a un espace d'à peu près 200 mètres. Il y a un espace d'à peu près 200 mètres. Donc, l'armée idolâtre pourrait s'engouffrer de ce côté-là et les attaquer de ce côté-là. Donc, le prophète sallam, il met de ce côté-là Az-Zubayr ibn al-Awwam. La deuxième moitié de l'armée, il la met un petit peu de ce côté-là. Il coupe l'armée en deux. Côté droit, Amr ibn al-Mundhir. Côté gauche, pour préserver cet accès, Az-Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, c'est celui que le professeur Salim a dit, à propos duquel le professeur Salim a dit, chaque prophète avait un apôtre, et mon apôtre à moi, c'était Zubayr ibn al-Awwam. Ajib. Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, s'est converti à l'islam très jeune, selon certains historiens, à 16 ans. Selon d'autres, à 12 ans. D'autres ont carrément dit à 8 ans. Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, avait l'habitude de dire, le seul pour lequel le professeur sallam a rassemblé son père et sa mère, c'est moi. Vous savez, il y a une formule en arabe, une expression, quand on dit à quelqu'un, « Bi abi, anta kada wa kada ». Par mon père, donc ce n'est pas une façon de jurer, c'est une expression. Par mon père ceci, ou bi ummi, par ma mère. Et Zubayr ibn al-Awwam, pour moi, il a dit bi abi wa ummi. C'était rare que le prophète sallam disait les deux. C'est une expression arabe pour montrer à la personne qu'il est proche de toi. Bi abi anta. Bi abi anta. Si vraiment on veut la traduire, pour pas que vous compreniez mal, parce que quand je dis « par mon père », c'est pas dans le sens où on jure. C'est comme si on disait « bi abi anta », c'est comme si on disait « toi, je serais peut-être prêt à sacrifier jusqu'à mon père. »« Bi abi anta ». »« Toi, jusqu'à mon père », yani, si je traduis littéralement. Sous-entendu, je peux aller jusqu'à sacrifier mon père pour toi. Tellement, bien sûr, il va pas le faire. Mais c'est une image pour dire « t'es pas n'importe quel sahab », comme on dirait aujourd'hui. T'es le sahbi d'arruh, comme ils disent. Celui à qui tu vas dire bi ummi anta, pour toi, ma mère. C'est ça que ça veut dire littéralement, pour toi, ma mère. Ah. Quand tu dis bi abi anta wa ummi, pour toi, ma mère et mon père, khlas, yani. C'est une façon de parler, c'est pas la vérité. Yani, dans le sens, les expressions, elles sont là pour la métaphore, pour l'image, pour l'exagération. Mais elles ne sont pas à comprendre à la lettre. Toutes les langues ont des expressions qui vont dans ce sens. Et l'arabe ne fait pas exception. La langue arabe ne fait pas exception. Il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais attends, est-ce qu'on a le droit de dire ça ?» Ah, c'est une expression. Une expression qui ne veut pas vraiment dire ça, mais qui veut dire quoi ? Qui veut dire « Je te respecte, toi. » C'est ça que ça veut dire. Et si tu la comprends vraiment dans le sens à la lettre, « Je suis prêt à sacrifier mes parents pour toi. » Non, l'islam, il t'interdit ça. Tu dois être prêt à sacrifier les autres pour tes parents. Non. Mais c'est une expression, Aïwa, qui a sûrement été dit à un moment à la lettre, et ensuite, au fur et à mesure, dans le temps, les gens, ils l'utilisent dans au second degré. Comme c'est le cas de toutes les expressions. Non. Comme l'expression qui dit... بين حانا بين مانا وحانا ضاعت لحانا بين مانا وحانا ضاعت لحانا entre mana et hana nos barbes elles sont parties, elles sont perdues, nos barbes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les Arabes, ils utilisent cette expression aujourd'hui pour dire quoi? Pour dire que quand tu essayes, yani, tu vas avoir, tellement tu vas avoir quelque chose, tu fais le sabab de ce côté, tu essayes par là, yani, tu fais tous les plans possibles, comme ça tu te dis c'est sûr, j'aurai ça. Yani, quelqu'un, pour avoir cette chose-là, il se dit je vais avoir telle personne. Toi, tu vas aller voir telle personne, tu vas aller voir l'autre, tu vas aller voir l'autre, comme ça tu dis là c'est sûr, je l'aurai. Et finalement, tu as tout perdu et tu n'as rien. Et dans ce cas-là, tu dis quoi dans ce genre de situation ? Baynamana wa hana, da'at lihana. Et à la base, ça vient d'où cette expression ? Ça vient d'un homme qui s'est marié avec deux femmes. Non. Il était polygame, il s'est marié avec deux femmes. Il avait une épouse jeune et une épouse plus âgée. Et donc, l'épouse, lui, c'était une personne plus ou moins âgée, donc il avait une barbe, et sa barbe, elle commençait à devenir grise et blanche. Il y avait des côtés blancs, des côtés noirs. Non. Et quand il allait chez son épouse, qui était la plus jeune, donc il y a une épouse qui s'appelait Mana, et l'autre, elle s'appelait Hana. Quand il allait chez la plus jeune, elle ne supportait pas de voir les poils blancs sur la barbe. Elle s'est dit, moi je suis jeune, les gens ils vont me voir avec mon époux, ils vont se dire, Hadi, c'est une jeune avec un vieux. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui enlevait, elle lui coupait, elle lui épilait les poils blancs pour qu'il ne reste que les poils noirs. Non. Dès qu'elle voyait un poil blanc, elle l'enlevait. Sauf que quand il retournait chez l'autre épouse, qui était elle âgée, elle se dit, elle veut me le rajeunir. Et les gens vont dire, il est beaucoup plus jeune que son épouse, alors qu'il est plus âgé que moi. Viens par ici. Et qu'elle, elle gardait les poils blancs et elle enlevait les poils noirs. Et au bout d'un moment, plus de barbe. Ni blanche, ni noire. Ils ont tout enlevé. Elles ont tout enlevé. Et donc, il a dit, quand il a vu qu'on lui a tout, on lui a enlevé toute sa barbe, il a dit, Baina Mana ou Hana, da'at li Hana. Entre Mana et Hana, notre barbe, elle est perdue. C'est tout, elle est partie. Entre Mana et Hana. Je vous donne cet exemple, mais on pourrait le faire avec n'importe quelle expression. Pour dire que l'expression, tu l'utilises dans un sens aujourd'hui, mais à la base, le premier qui l'a dit, il l'avait dit pour quelque chose qui lui est vraiment arrivé, il l'avait dit à la lettre. Mais aujourd'hui, toi, tu ne l'utilises pas pour ça. Tu as une barbe qui était blanche et noire et tu as deux épouses et ils te l'ont arrachée. Non, toi, tu dis l'expression quand tu fais des choses et tu as fait toutes les causes et pourtant tu ne l'as pas eu, tu as tout perdu. C'est dans ce sens-là que tu vas le dire. Ittafaqna? Tayyib. Donc, du coup, ça m'a fait perdre le fil. Naam? Ismahli? Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné Zubayr ibn al-Awwam. Et il a mis avec lui Al-Miqdad ibn al-Aswad pour l'aider. Zubayr ibn al-Awwam, j'étais en train juste de rappeler certains faits de sa biographie. Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, fait partie aussi des 10 premiers au paradis. Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, fait partie des 6 qu'on a appelés Ahlushura, les gens de la consultation. Ça concerne des événements après la vie du professeur sallam. Les 6 de Ahlushura, à la mort des califes, du premier calife, Abu Bakr Siddiq, et ensuite à l'assassinat de Omar, les compagnons se réunissaient, ils se disaient, on va désigner qui maintenant comme nouveau calife. Et ils avaient donné la charge à 6 compagnons en qui ils avaient confiance. Ils disaient, eux, c'était vraiment les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils considéraient eux comme étant les meilleurs des compagnons. Ils disaient, c'est entre vous. À vous de désigner, on vous suivra. Et Zubayr ibn al-Awwam faisait partie de ce groupe de 6. Qu'on appelait Ahlushura, les gens de la consultation. Quand il y avait vraiment une question capitale, importante à prendre, on allait chez ces 6 personnes. Et parmi ces 6 personnes, Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Zubayr ibn al-Awwam, les historiens disent à son sujet que c'est le premier à avoir brandi une épée dans l'islam, pour l'islam. Zubayr ibn al-Awwam, on va pas faire sa biographie parce qu'il y a tellement à dire. Mais pour terminer, Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, il va donner naissance à... d'abord, il se mariera avec la fille d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Asma. Et ensuite, il va donner naissance à des compagnons tels que Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, Urwa ibn Zubayr, et d'autres. Et ils vont avoir beaucoup de rôles très importants, ses enfants et ses petits-enfants, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier après l'assassinat du quatrième calife, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. D'ailleurs, lui-même, Zubayr ibn al-Awwam, il va prendre parti au moment de la divergence entre Muawiyah ibn Abi Sufyan et Ali ibn Abi Talib, et il va même être tué dans ce qu'on appelle Yawm al-Jamal, le jour du chameau. Yawm al-Jamal. Parce que lui sera du côté de, il y aura, de son côté, il y aura Talha ibn Ubaidillah, radiallahu anhu. Et il y aura même l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha. Et ils vont, il y aura des hommes de leur côté, le Mouhim, il y aura une dissension entre une divergence entre lui et Ali, à un tel point que Ali leur ordonnera de revenir chez eux. Et il y aura presque un combat. Et finalement, une réconciliation. Et certains hypocrites, ayant peur que le soleil se lève, les négociations elles ont lieu pendant la nuit, et ils arrivent à un accord. Le camp de Zubayr ibn al-Awwam accepte de revenir chez eux. Ils ont trouvé un accord avec Ali ibn Abi Talib sans qu'il n'y ait aucun combat ni rien du tout. Sauf que des hypocrites vont se mettre dans les deux camps. Ils vont faire un plan. Ils vont se mettre dans les deux camps. Et ils vont se mettre d'accord pour qu'au même moment, juste avant l'aube, ils lancent des flèches. Des hypocrites de ce côté lancent des flèches de l'autre vers les autres. Et de ce côté, ils lancent des flèches vers l'autre. De telle sorte à ce que chaque camp a cru que les êtres les attaquaient par surprise et les avaient trahis et qu'il n'y avait plus d'accord. Et donc, ça a mené à ce que les hypocrites ont voulu, c'est-à-dire une guerre dans laquelle Zubayr ibn al-Awwam, radiallahu anhu, va mourir. Non. Alors, on ne va pas ouvrir ces parenthèses-là. Il y en a. Intéressons-nous d'abord à continuer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sait, si Allah azza wa jalla nous donne longue vie et qu'on arrive jusque-là, pourquoi pas, on fera aussi les histoires et les biographies des califes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met à la droite Al-Mundhir ibn Amr, et il met à la gauche Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, aidé de Miqdad ibn al-Aswad. Non. Sauf que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, alors il va d'abord donner des recommandations. Les premières recommandations qu'il donne à l'armée, c'est لا يقتلن احد حتى امره بقتال لا يقاتلن احد حتى امره بقتال que nul d'entre vous ne livre bataille jusqu'à ce que je lui en donne l'ordre. Ça, c'est la première consigne que le prophète sallam donne lorsqu'il met en rang, ce que j'ai oublié de vous dire, quand il réorganise l'armée en deux groupes du côté de la montagne de Uhud, il les met en rang et il met dans le premier rang ceux qui sont connus pour être les plus vaillants, les plus courageux, les plus féroces dans le combat. Il les met dans les premiers rangs et il donne l'étendard à Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son armée, « La yuqatilanna ahadun hatta amurahu biqital. » Que nul d'entre vous ne mène le combat jusqu'à ce que je lui en donne l'ordre. Et on a des versions historiques qui nous disent, quand je dis historiques, c'est-à-dire elles sont chez les historiens, mais elles ne sont pas forcément authentifiées, qui nous disent que lorsque les compagnons arrivent à Uhud, donc là maintenant le soleil s'est bien levé, ils voient bien les idolâtres en face, et où est-ce qu'ils ont mis leurs montures, leurs chameaux, etc. Et ils les ont mis où? Ils les ont mis sur des pâturages qui leur appartiennent à eux, aux musulmans. Évidemment, c'est fait exprès. Ils nourrissent leurs montures, ils font paître leurs montures sur les champs qui appartiennent aux musulmans. Et à l'époque, dans des endroits comme ça, désertiques, les peu d'endroits où il y avait quelque chose qui poussait, c'était rare. Et donc certains compagnons sont pressés parce qu'ils voient, sous leurs yeux, ils voient des montures en train de décimer leurs champs. Et donc certains vont dire « Atur'a zuru'una »« Atur'a zuru'u bani qayla »« Walamma nudarib » Est-ce que les champs, les vergers, les pâturages des Bani Qayla, de la tribu des Bani Qayla, se fait dévorer alors que nous, on n'a même pas encore livré combat? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? S'ils veulent le pâturage, c'est un butin. Qu'est-ce qui prend le butin? Celui qui a gagné la bataille. On n'a même pas encore livré bataille, ils sont déjà en train de nous prendre nos biens, nos richesses. Ça ne se fait pas, ça ne fait pas partie des règles de la guerre de l'époque. Avant, il y avait les règles du butin. Le butin, il est pris par qui? Par le gagnant. Mais là, on n'a même pas encore livré bataille. Laissez-nous livrer bataille et on verra ensuite. Si vous gagnez, prenez nos pâturages, prenez le butin. Donc ils disent « Atur'a zuru'u bani qayla walamma nudarib » Est-ce que les pâturages des bani qayla, ils vont être dévorés alors qu'on n'a même pas encore livré bataille? C'est qui les bani qayla? Eh bien, les bani qayla, c'est tout simplement les Médinois. Les deux grandes tribus, Aous et Khazraj, on les appelle les Bani Qayla. Pourquoi? Parce qu'ils ont une lointaine, ces deux tribus, ils ont une lointaine ancêtre. Donc c'est deux tribus différentes, mais quand tu remontes à leurs ascendants, tu remontes, ça finit par se rejoindre à une femme. Cette femme, c'est qui? C'est Qaylatou ibn Arqam. C'est-à-dire la première ascendante, la première ancêtre qui vient lier entre les deux grandes tribus de Médine, les Aous et les Khazraj, c'est Qaylatou bint Arqam. Et donc on les appelle, les gens de Médine, les Bani Qayla, les descendants de Qayla. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il faut puiser dans un détail qu'on a fait il y a longtemps, lorsque le prophète Hassan est arrivé à Médine pour la Hijra, on avait dit que les compagnons de Médine attendaient chaque jour l'arrivée du prophète Hassan. Et ils sortaient chaque matin, ils attendaient, ils regardaient, ils scrutaient l'horizon. Et dès que le soleil arrivait à son zénith et qu'il faisait trop chaud pour attendre dehors, ils allaient se réfugier à l'intérieur. Et le soir, en fin d'après-midi, il ressortait et regardait. Et le professeur Hassan, à quel moment il va arriver à Médine? Il va arriver en plein zénith. Donc quand il n'y a plus personne. Et le premier qui va remarquer l'arrivée du professeur Hassan, c'est qui? C'est un juif de Médine. Et quand il va le voir arriver, il va courir annoncer aux Médinois, il va dire quoi? « Ya Bani Qayla, hada jaddukum qad ja'a. » Eh, les Bani Qayla. Donc les gens de Médine, les appellent les Bani Qayla. « Ya Bani Qayla, hada jaddukum qad ja'a. » Voici votre ancêtre, votre grand-père qui vient d'arriver. On avait expliqué à cette époque-là, si mes souvenirs sont bons, pourquoi ils disent « hada jaddukum ». Jaddukum en arabe, ça peut vouloir dire « hada hadvukum ». Votre part, votre trésor, votre chance, elle est arrivée. Ce que vous attendiez est arrivé. Et d'autres disent « non, jadd », ici c'est vraiment dans son premier sens, c'est-à-dire grand-père, dans le sens où le professeur sallam, il a des ancêtres à Médine, chez les Bani Amr ibn Aouf, ou plutôt chez les Bani Najjar. Et d'autres disent c'est parce que le professeur sallam a comme ancêtre Ismaïl. Le prophète Ismaïl, fils de Ibrahim, et que tous les Arabes descendent de lui, donc il leur dit « hada jaddukum », c'est votre grand-père qui est là, « ala kulli hal ». C'est autre chose. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que les musulmans sont pressés. Surtout quand ils voient leurs pâturages qui sont en train d'être décimés par les montures des idolâtres. Le professeur Hassan ne veut pas que le combat se mène juste pour ça ou sans réflexion. Donc il dit « La yuqatilanna ahadun hatta amurahu biqital » Que nul d'entre vous ne mène le combat jusqu'à ce que je lui en donne l'ordre. Maintenant, c'est au tour des idolâtres de se placer. Et les idolâtres, évidemment, ils se mettent en face. Ils se disent, il n'y a pas meilleure place. Rêver que celle-là. On a Médine à notre merci derrière nous. On va d'abord s'occuper d'eux. On les accule à la montagne. On les décime. Et ensuite, on s'occupe de la ville. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Et quand ils voient le mont des archers, donc ils font un plan entre eux, les idolâtres. Ils se placent en face des musulmans, sauf que leur cavalerie de 200 hommes, ils la placent où? Ils mettent à la tête de leur cavalerie Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. À l'époque, il n'était pas encore converti à l'islam. Ils mettent à la tête de cette cavalerie Khalid ibn al-Walid. Et ils disent à Khalid ibn al-Walid, toi, tu te mets du côté de cette colline. sur le côté, sur le flanc. Parce que entre la colline, on a dit, et la montagne de Uhud, il y a un accès. Un accès qui fait à peu près une largeur de entre 150 et 200 mètres. Et donc, tu vas pouvoir passer de ce côté-là avec la cavalerie pour, si les musulmans ne bougent pas de cet endroit-là, les prendre sur le côté pendant que nous on les attaque par devant. Et s'ils gagnent la bataille, ce qui va arriver au début de la bataille, et qu'ils arrivent à nous repousser, vous pourrez les prendre par derrière. Ah, ça c'est très stratégique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va voir ça, il ne peut pas laisser la situation ainsi. Donc il va lui aussi prendre une décision pour sauvegarder. Parce que là, la moitié de l'armée qu'il a mis de ce côté-là, elle sera quand même occupée, même s'il l'a mis de ce côté-là pour d'une certaine manière boucher le passage, elle sera occupée à un moment ou un autre dans la bataille. Donc il est possible... Il voit bien que cette cavalerie a été passée de ce côté, donc il y réfléchit, il se dit, si on perd, ils peuvent nous attaquer sur le côté. Si on perd, c'est le moins pire de scénario pour cet accès, parce que si on perd, ça veut dire qu'on reste de ce côté-là. Donc ils ne peuvent pas rentrer. Mais si on gagne, on sera obligé d'avancer. Et là, ils pourront venir nous prendre par derrière. Donc il faut absolument bloquer cet accès. Il faut absolument prendre une garantie qui va faire que cette cavalerie, en cas de débandade des idolâtres, elle ne peut pas passer par là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il a une armée de 700 hommes contre 3000. Bon, si on enlève la cavalerie de 200, contre 2800. Il ne peut pas se permettre d'amputer son armée de 100 hommes, de 200 hommes. Il n'en a que 700. Donc il faut qu'il arrive à trouver une idée qui va lui permettre de bloquer totalement cet accès en utilisant le moins d'hommes possible. Et il va y arriver. En faisant quoi? Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.